Je vais donc présenter aujourd'hui et la semaine prochaine, comme je l'avais annoncé, deux témoignages, donc deux textes à la première personne, qui portent sur cet épisode Shun, c'est-à-dire sur le régime très éphémère fondé par le rebelle Li Zicheng, qui a brièvement régné à Pékin en 1644. Deux textes dont j'avais déjà donné les titres, et, y compris sur la feuille que j'avais fait circuler la dernière fois. Le premier, c'est donc le Tiachen U Bien Silué. J'avais proposé comme traduction récit abrégé des incidents auxquels j'ai été confronté en 1644, ce qui n'est pas très élégant. Et puis à la réflexion, je crois que U Bien est plus fort que incident. C'est bien être confronté à une catastrophe, bien sûr la catastrophe étant la chute des Ming et l'usurpation de Li Zicheng. Le sens premier du mot « bien », comme vous savez, c'est simplement « changer », un changement. Et il y a deux sens dérivés qui sont des sens plus forts. Premièrement, tout simplement une rébellion, mais non pas un changement de dynastie, comme traduit Wakeman à tort, parce que pour changement de dynastie, il y a d'autres termes. Et plus généralement, ça signifie une catastrophe, c'est-à-dire au sens premier du terme, un grand bouleversement. Quoi qu'il en soit, le texte lui-même n'est pas très long et il se présente comme une chronique, mois par mois et jour par jour. Mais bien qu'il soit à la première personne, et bien que ce soit donc un mois par mois et jour par jour, ce n'est pas à proprement parler un journal. Je le décrirais plutôt comme un récit arrangé chronologiquement, centré sur l'auteur, mais pas uniquement, et avec des retours en arrière et des digressions, et qui combine donc les événements qui affecte directement l'auteur et ce qui se passe autour de lui et dont il a entendu parler. Je me demande si je ne traduirais pas finalement ce titre par quelque chose comme « À travers la catastrophe de l'année Tiachen » ou quelque chose comme ça. Personne ne s'est préoccupé de le traduire jusqu'à présent, ce titre, puisque le texte en fait n'est pas connu. L'auteur de ce texte est un nommé Xu Yingfen. Mais dans certaines éditions, parce qu'il en existe plusieurs éditions, on trouve à la place de ce nom, ou alors les deux noms côte à côte, un sobriquet qui est Long Daozhen, ce qui signifie littéralement le taoïste sourd. Dans l'édition que j'utilise, qui est une édition moderne publiée à Taïwan, on a seulement comme seule indication d'auteur Long Daozhen. Nous ne savons de toute façon rien sur ce personnage en dehors de ce qu'il dit lui-même dans le texte. Il est en effet absent des index et des bases de données biographiques, ce qui implique au moins une chose, c'est qu'il n'a pas eu de carrière bureaucratique. En tout cas, ce qui ressort des indications éparpillées dans le texte, c'est que, premièrement, de toute évidence, il avait le statut d'étudiant confucéen, dont je reparlerai plus tard. Nous le savons parce qu'au début du régime Shun à Pékin, certains le poussent à participer aux sessions d'examen organisées pour les étudiants en vue de recruter des fonctionnaires dans les rangs subalternes. Mais cette offre, il la refuse, et il la refuse au prétexte qu'il était dur d'oreille, qu'il était sourd, d'où son nom, son sobriquet, sans doute, de Long Daozhen, et qu'au moment du récit, en plus, la période de deuil à la suite de la mort de sa mère n'était pas encore terminée. Voilà tout ce que nous savons de lui. Donc, étudiant, sourd et encore en deuil de sa mère. Il nous explique au début du texte qu'il se trouvait dans le sud, dit-il sans plus de précision, en période de deuil donc, et sans activité particulière, lorsqu'il a été appelé à Pékin, à la fin de l'année 1643, par un nommé Tu Biron. Et cela pour exercer auprès de ce monsieur Tu les fonctions de secrétaire, pour lequel il emploie le mot Tish, ce qui n'est pas exactement la même chose que les secrétaires privés de l'époque des Qing de plus tard. C'est vraiment un secrétaire à tout faire et un scribe. Et il précise aussi qu'il ne pouvait pas refuser cette invitation, sans nous dire cependant quel lien d'obligation le liait à ce Tu Biron. Ce personnage était, ça nous le savons, un membre du censorat. Nous le savons, et d'ailleurs il le dit, même si c'est de façon allusive, autrement dit, c'était un fonctionnaire important dans le dispositif de la capitale. Et nous savons par ailleurs que Tu Biron avait passé le doctorat en 1631, donc c'était de toute évidence un ancien par rapport à l'auteur du texte. Mais ce qui permet de mieux comprendre leur lien, c'est qu'il est très vite clair qu'ils venaient du même endroit, à savoir ils venaient tous les deux de Nanchang, qui est la capitale de la province du Jiangxi, dont Tu Birong était en effet originaire. Et l'entraide au sein du groupe des natifs de Nanchang, à la capitale, est très souvent mentionnée dans le texte, comme on verra, et il y est même plusieurs fois question de l'hôtel de Nanchang, le Huiguan, c'est-à-dire l'endroit où les gens originaires de cette grande préfecture du Sud pouvaient se réunir ou même habiter quand ils étaient de passage, par exemple pour passer des examens. Le texte n'emploie pas Huiguan, qui est le mot classique pour ce genre d'institution, mais Neguan, c'est un détail. Le Jiangxi était une province politiquement importante sous les Ming, nettement plus que sous les Qing, et une province qui produisait beaucoup de licenciés et beaucoup de docteurs, donc beaucoup de fonctionnaires potentiels. Mais de manière plus générale, ce localisme, cet esprit d'entraide entre gens originaires du même lieu est fondamental dans la culture chinoise. Et en effet, l'expression « wuxiang », qu'on pourrait à la limite traduire par « mes compatriotes » ou même « mes pays », voire même « les gens de chez nous », wuxiang, donc, revient sans cesse dans le texte. À chaque incident rapporté, par exemple les misères infligées aux fonctionnaires de Pékin par les lieutenants de Li Zicheng, auxquels je ferai de nouveau allusion, à chaque incident rapporté, l'auteur tient toujours à préciser comment ont été affectés ceux de chez nous. Le début du Yu Bianjilue, de ce texte, évoque l'ambiance un peu spéciale qui régnait dans le pays au tournant de 1643 et 1644. Pendant son voyage depuis le sud, l'auteur apprend la nouvelle que Li Zicheng vient d'entrer au Shanxi, puis qu'il s'est emparé de Xi'an. Mais quand il arrive peu après à Pékin, les hauts fonctionnaires ont l'air de ne pas s'en faire. La vie continue. Cela dit, on ne tarde pas à recevoir des informations qui confirment qu'il y a en réalité de quoi s'en faire, que les troupes impériales n'arrivent pas à contenir les rebelles, que ceux-ci ont franchi le fleuve jaune, c'est-à-dire entre le Shanxi et le Shanxi, donc ces deux provinces du nord parallèles, si je puis dire, qui sont séparées par la partie sud-nord ou nord-sud de la boucle du fleuve jaune. Donc ils ont franchi le fleuve jaune et ils sèment la désolation partout. Et on apprend aussi qu'ils s'emparent d'une ville après l'autre, etc., etc. Inutile de donner le détail. Et après que Taiyuan, c'est-à-dire la capitale du Shanxi, soit tombée à son tour, là, l'affolement gagne la capitale, la cour s'interroge avec angoisse sur la stratégie à adopter, l'empereur refuse de quitter la capitale, etc. J'avais déjà parlé de tout cela. C'est grâce au récit de son patron, chez qui il réside, que l'auteur est au courant de tous ces débats dramatiques qui se déroulent au palais. En effet, en tant que censeur, Tu Birong était certainement témoin de ces débats. Il raconte par exemple à son secrétaire qu'une fois qu'il est devenu clair qu'il n'y a plus d'issue, l'empereur et tous les dignitaires qui l'entouraient ont fondu en larmes. Et ce détail se trouve dans beaucoup de sources, mais Tu Birong, lui, il y était. Et Xu Yingfen ajoute que dès ce moment, ses amis du Jiangxi font leur bagage et commencent à quitter la capitale les uns derrière les autres. Il emploie l'expression « zhen xiangtie » qui, à mon avis, se traduirait assez exactement par « pare-choc contre pare-choc », puisque le mot « zhen » désigne non seulement la voiture, mais la pièce de bois qui est derrière, donc ils sont les uns contre les autres. C'est une image, bien sûr. En tout cas, il s'agit d'un mini-exode des notables du Jiangxi que nous décrit donc Xu Yingfen. Mais lui, nous dit-il, ne peut pas se permettre d'abandonner son patron au milieu de tous ces soucis qui l'assaillent du matin au soir. En tout cas, les fuyards ont des raisons de se dépêcher, car dans les jours qui suivent, toutes les places importantes à proximité de Pékin tombent l'une après l'autre. Les commandants envoyés contre les rebelles se rendent dès qu'ils sont en difficulté, ou même sans attendre d'être en difficulté. Autrement dit, le piège se referme. L'auteur mentionne aussi le fait que la ville est tellement dégarnie en troupes régulières, à peu près fiables, qu'à présent ce sont les eunuques qu'on envoie garnir les murailles de Pékin. Et j'ajoute au passage que la présence envahissante des eunuques du palais, et il y en avait des milliers, dans le dispositif de défense de la capitale, est un sujet qui mériterait peut-être plus de recherche. on en avait déjà une illustration, il me semble que j'y avais fait allusion, peut-être l'année dernière, une illustration très vivante et vraiment une observation de première main dans l'autobiographie de Ye Shaoyuan, qui, comme nous l'avions vu en effet l'année dernière, se trouvait aux premières loges en tant que fonctionnaire du ministère des Travaux publics, donc chargé entre autres choses des armements, se trouvait aux premières loges au moment de la très chaude alerte causée par le raid mandchou sur la capitale à la fin de 1638. Enfin, ça, c'est une incise. En tout cas, à présent, l'auteur affirme à tout biron qu'à son avis, la ville ne pourra pas être défendue. Mais tout ne veut pas encore y croire. Pourtant, dès le jour suivant, et là, on est le 15 avril, les armées, 15 avril 44, les armées rebelles sont au pied de la muraille de Pékin, d'où on leur tire dessus à coups de canon. Et il y a d'assez bonnes descriptions dans le texte à plusieurs reprises, à ce moment-là, et puis aussi au moment de la fuite de Li Zicheng, de ce bruit qui se répand partout et qui envahit tout, de ce bruit du canon. En tout cas, ce bruit est infernal, et à l'intérieur de la ville, les habitants, complètement affolés, courent dans tous les sens comme des canards, suivant l'expression reçue, et toutes sortes de rumeurs circulent. Par exemple, que la prise de la ville serait programmée pour dans 3 jours, et que l'installation de Li Zicheng sur le trône serait, elle, programmée pour dans 8 jours. Le lendemain matin, 16 avril, l'auteur découvre une affichette collée à la porte de la résidence de M. Tou, dans laquelle les rebelles annoncent qu'un des censeurs chargés des quartiers de Pékin s'est déjà rallié à eux, c'est-à-dire à eux, les grands Shun, la dynastie qui s'apprête à s'installer à Pékin, et a promis de leur livrer la ville. Et il y a de telles affichettes un peu partout, qui ont été visiblement laissés là par des espions pour casser le moral de la population. La nuit suivante, une information ultra-secrète est communiquée à M. Tou par un autre de ses compatriotes, et celui-là était de service, un fonctionnaire de service à l'une des portes de la ville, et cette information sensationnelle, c'est que l'empereur, l'impératrice et le prince héritier ont pris la fuite en simple équipage. C'est bien sûr un faux bruit. Mais là, c'est l'affolement chez M. Tou. Et comme dans la suite du texte, ses réactions, ses déclarations et ses initiatives donnent, me semble-t-il, la matière d'une jolie étude de cas, une mini-étude de cas, d'accord, mais quand même, sur un type de comportement qui semble avoir été on ne peut plus répandu parmi les fonctionnaires de la capitale au moment de la prise de Pékin par Li Zicheng. Il n'y a pas là de révélation, bien sûr, je veux dire, dans ce texte. Et Wakeman, en particulier, parle de ceci en citant ça et là des textes du même genre. Mais encore une fois, comme je l'avais dit, le témoignage de Yu Bianjilue nous permet de suivre un personnage particulier dans le quotidien de ses hésitations et de ses palinodies, si vous voulez. Dès l'aube, donc, M. Tou réussit à se procurer en toute hâte une maison où il veut envoyer sa femme et son fils et où lui-même a l'intention de se mettre à l'abri. Autrement dit, il veut changer d'adresse pour qu'on n'arrive pas à le trouver. Mais pour ne pas être trop perdu quand même, cette maison se trouve juste à proximité de l'hôtel de Nanchang dont j'ai parlé tout à l'heure. Cela étant, il ne va pas avoir le temps de s'y réfugier car, un moment plus tard, on voit apparaître dans les rues les premiers cavaliers rebelles. Et il ne reste plus à Tou et aux siens qu'à essayer de se barricader dans la résidence. Les cavaliers Shun, donc les cavaliers de Li Zicheng, nous dit le texte, sont suivis par des gens qui crient partout que personne ne panique, que rien ne va changer, que, citation, les fonctionnaires resteront fonctionnaires et le peuple restera peuple. Donc, Zheng Fu Guan Zhi Guan, Min Zhi Min. Alors, Guan Zhi Guan, ça je comprends encore, mais Min Zhi Min, comment le peuple pourrait-il autre chose que le peuple, je ne sais pas. Les habitants, par ailleurs, guident les envahisseurs pour les aider à récupérer tous les chevaux dans les étables de la ville et d'autres sources confirment en effet que le premier soin des rebelles avait été de récupérer toutes les montures dans Pékin. Et peu après, l'information arrive qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires se sont donné la mort en se pendant. L'auteur cite 5 noms, mais il y en a eu au moins 15. Mais ce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là, c'est que l'empereur lui-même s'est suicidé. En effet, on ne retrouvera sa dépouille qu'un peu plus tard, 2 jours plus tard. Soit dit en passant, Je retrouve dans ces passages, et ça c'est aussi une incise que je fais, dans ces passages du Yubian Jilue, qui raconte l'entrée des troupes Shun dans Pékin, et puis aussi dans le récit de la période qui suit, je retrouve quelque chose de tout à fait comparable au désarroi et à la confusion que j'avais rencontrée dans d'autres textes, eux aussi des témoignages à la première personne, mais eux rédigés pendant ou juste après un autre exemple d'invasion de Pékin par une force étrangère. Des textes donc que j'avais examinés à l'occasion d'un séminaire il y a 2 ou 3 ans. Et je veux parler, bien sûr, de... Enfin, bien sûr, je veux parler de l'entrée de l'armée dite des 8 nations dans la ville en août 1900 pour venir délivrer, bien sûr, enfin, cette fois-ci, c'est vraiment bien sûr, le quartier des légations étrangères assiégé par l'armée des Qing et par ses alliés, les boxeurs, donc les fameux 100 jours de Pékin. Il existe un recueil qui contient 5 de ces textes dont je parle, un recueil publié en 1959 sous le titre Gengzi Qishi, autrement dit, écrit sur les événements de l'année Gengzi, et l'année Gengzi étant bien sûr 1900. Et ces textes sont en général extrêmement détaillés. Ils sont en fait plus détaillés que les témoignages de 1644 que j'ai pu consulter. Ces notes, et certaines sont des journaux qui nous mettent assez longs, qui ne mettent pas un seul jour ni un seul détail, ces notes donc des habitants de Pékin en 1900 ont l'intérêt de nous faire vivre au jour le jour l'incertitude dans laquelle tout le monde se trouve, la peur de l'inconnu, la circulation des rumeurs, même les plus absurdes, tous ces soldats étrangers qui terrifient tout le monde et qui parcourent la ville dans tous les sens, les ordres, les visites domiciliaires et bien sûr les exactions, et aussi les petits arrangements pour ne pas être inquiétés et les efforts pour faire en sorte que la vie continue. Les auteurs de ces textes de 1900, donc, qui sont tous des notables, bien sûr, se terrent chez eux et ils essaient de recueillir le maximum d'informations fiables en envoyant leurs gens en ville, par exemple, ou en échangeant des messages avec leurs collègues et leurs relations. Et certains finissent par s'aventurer dans les rues quand ils apprennent que l'occupant convoque les fonctionnaires pour les remettre au travail, pour qu'ils reprennent leurs fonctions. Et ainsi de suite. Et là, encore une fois, il y a des parallèles tout à fait évidents avec ce qui s'est passé en 1644. Et encore une fois, même si la nature de la présence étrangère est très différente dans ce cas, même si en 1900-1901, la coalition commandée par le général von Waldersee est restée à Pékin et en Chine du Nord beaucoup plus longtemps que les forces de Li Zicheng en 1644, et enfin, même si les choix à faire par les occupés n'étaient pas non plus les mêmes, malgré tout cela, donc, on retrouve dans les deux cas des comportements très semblables. Et s'ils sont semblables, peut-être est-ce en partie, me semble-t-il, parce qu'ils prennent place dans ce même espace pékinois, tellement caractéristique, aujourd'hui encore, même après la disparition des murailles, dans cet espace pékinois qui, en 1900, n'avait finalement pas tellement changé depuis la fin des Ming, tant il est déterminé par la géographie des murailles, avec la ville intérieure, la ville extérieure, la cité interdite, etc., la ville impériale, la géographie des portes, des espaces publics ou interdits, etc. Donc cette permanence, disons, de l'espace est sans doute pour quelque chose dans ce parallèle que je viens de suggérer. Quoi qu'il en soit, c'est lorsqu'il entend parler du suicide de certains de ses collègues que, comme d'autres certainement, M. Tu se demande assez mollement, à vrai dire, ce qu'il doit lui-même faire. Ou plutôt, il pose la question à son secrétaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rejoue. Ou plutôt, joue. Réponse du secrétaire, si l'on s'en tient au « i », donc ce terme intraduisible en français qui signifie la justice, la loyauté, le devoir, le sens du décorum, tout ce qu'on voudra. Si l'on s'en tient au « i », donc, alors c'est certain, il est approprié que quiconque a reçu un salaire de l'empereur, littéralement a mangé un salaire, hein, chelou de jeu, donc tout fonctionnaire, choisisse la mort. Mais tout ne semble pas trop porté à l'héroïsme. Il essaye d'abord de s'en tirer en invoquant sa famille. Et il dit, en pointant sur son épouse et son fils, « Ce n'est pas que j'ai peur de mourir, c'est tous ces gens qui me cassent les oreilles. Qu'est-ce que je vais faire pour eux ?» Et là, l'expression « nao nao zhi », Je me suis vraiment beaucoup gratté la tête. Et je crois que ça veut dire non, c'est des gens qui bavardent, qui sont insupportablement bavards. Donc voilà, ces gens qui me cassent les oreilles. Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je ne sais pas. En tout cas, il se fait du souci pour son épouse et son fils. Et tout de suite après, il parle de deux collègues haut placés qui, eux, n'ont pas l'intention de faire don de leur vie. Wu Chuan-Shui. Xunfeng, son secrétaire, lui donne alors la réponse qu'il attendait sans doute. Il lui répond, eh bien, il n'y a qu'à faire comme tout le monde. Autrement dit, pas d'héroïsme inutile. Le dilemme est par conséquent vite résolu, mais tout est malgré tout dans un état d'extrême angoisse ou d'extrême tension. Et il ne peut pas se retenir de pleurer en regagnant ses appartements intérieurs. Et il finit par s'échapper de sa maison ou de sa résidence pour ne pas avoir à répondre à tous ces visiteurs affolés qui viennent frapper à sa porte pour discuter des événements, suppose-t-on. Les hésitations et les problèmes de conscience de Tu Birong sont très probablement assez typiques de la masse des fonctionnaires de Pékin. Je veux dire, de ceux qui n'ont évidemment pas envisagé sérieusement de se donner la mort, mais qui ne se sont quand même pas précipités, comme certains l'ont fait, pour accueillir Li Zicheng au moment où son cortège entrait dans la ville et pour lui proposer leur service. Encore que Tu Birong n'appartenait pas exactement à la masse des fonctionnaires, je viens de parler de la masse des fonctionnaires. En tant que censeur, il était en effet placé assez près de l'empereur, il assistait aux audiences, comme on l'a vu, aussi bien moralement qu'institutionnellement, et la chute de Chongzhen devait quand même avoir une signification très spéciale pour lui. Quant au petit peuple de Pékin, ce témoignage confirme qu'il n'a pas hésité, quels que fussent ses sentiments réels. En effet, tous s'empressent de placer devant leur porte des tablettes sur lesquelles est collée une feuille de papier jaune avec les caractères Da Shu Yongchang, donc R Yongchang de la dynastie des Grands Shun, autrement dit ce qu'avait choisi Li Zicheng, comme on l'avait vu, des tablettes devant lesquelles on peut brûler de l'encens. Et pour circuler en ville sans crainte d'être inquiété, il se colle même des deux côtés du visage des bouts de papier portant les caractères Shunmin, qui est ambigu, parce que ça peut être le peuple de la dynastie Shun, ou bien ça peut être simplement, et beaucoup plus classiquement, le peuple soumis. Shunmin, quand on veut se protéger des envahisseurs, on dit « Ah, nous sommes des Shunmin ». Donc c'est ce qu'ils font, ils se le collent sur le visage. Mais après qu'on a retrouvé le corps de l'empereur, et que sa mort est donc confirmée, tous les gens qu'on rencontre dans les rues, nous dit l'auteur, sont en larmes. En revanche, pas un seul fonctionnaire ne va rendre hommage à la dépouille de l'empereur dans la baraque où on a installé son cercueil, juste à l'extérieur de la porte Donghuamen, donc juste à l'extérieur de la cité interdite, alors qu'on ne leur avait pas interdit d'aller rendre hommage à leur ancien empereur. Lorsqu'il quitte subrepticement sa résidence pour aller se mettre à l'abri dans la nouvelle maison qu'il venait d'acquérir, je suppose, Tu confie la garde des lieux au narrateur, donc à son secrétaire, et à deux serviteurs. Malheureusement, ces deux serviteurs, sous prétexte de mettre à l'abri l'argent et l'or que les soldats de l'armée rebelle ne manquent en effet pas de venir réquisitionner, s'en mettent plein les poches au passage. Et là, il faut rappeler que les résidences des fonctionnaires étaient, dans tous les cas, dans le sud aussi, les premières visitées par les rebelles, car tout le monde savait très bien qu'elles recelaient des richesses parfois considérables, le plus souvent mal acquises, que leurs propriétaires essayaient tant bien que mal de mettre à l'abri ou de cacher, d'enterrer, etc. Donc c'était chez eux qu'on allait d'abord. Mais je laisse ces détails pour suivre l'Odyssée de Tu Birong, tel que le texte permet de la reconstituer. Tu Birong, disais-je, ne s'est pas précipité pour faire des offres de service, mais il ne s'est pas non plus caché lorsque le nouveau gouvernement a sommé, quelques jours plus tard, tous les fonctionnaires civils et militaires de la place de se présenter au palais avec leurs brevets et certificats afin d'être examinés et réemployés, et en précisant que ceux qui essayaient de se cacher seraient punis, c'est-à-dire qu'ils seraient décapités. Wakeman, dans son étude sur l'interrègne Shun, a un très beau passage où il raconte l'audience présidée par Li Zicheng et par son principal conseiller lettré, qui était un certain Niu Tianxing, qui exerçait désormais les fonctions de Premier ministre, une audience dans laquelle tout avait été calculé pour humilier les quelques milliers de fonctionnaires qui s'étaient présentés. On les avait fait venir au petit matin à une première audience, deux jours plus tôt, au petit matin, ça veut dire avant l'aube, deux jours plus tôt, qu'on avait une audience qu'on avait renvoyée sans que rien ne se passe, après les avoir fait attendre en plein soleil toute la journée. Et à présent, donc, ceci est le 29 avril, ils avaient de nouveau dû attendre de longues heures, agenouillés sur les pavés de la cité interdite, sous les injures et les coups des soldats et du petit personnel, avant que Li Zicheng et ses conseillers ne daignent apparaître à la fin de la journée. L'appel des fonctionnaires, donc il y avait des listes de tous les fonctionnaires qui étaient dans les archives du gouvernement, bien sûr, donc on fait l'appel, et l'appel avait finalement été fait, donc accompagné de propos désobligeants sur chacun au moment où il répondait présent. Et en fin de compte, le nouveau régime avait retenu moins d'une centaine d'individus, dont les rangs bureaucratiques étaient, disons, de rang moyen, pour les nommer dans les administrations de la capitale. Et les milliers d'autres avaient été reconduits manu militari dans les casernes de deux des principaux généraux de Li Zicheng. Et là, pendant les jours suivants, ils furent soumis aux plus terribles tortures pour leur extorquer de l'argent. D'une manière générale, cet épisode montre à quel point Li Zicheng méprisait la bureaucratie civile de la dynastie qu'il venait de renverser, comment il considérait les fonctionnaires comme une bande de concussionnaires et de lâches, qui étaient en fait les véritables responsables de la chute des Ming, et aussi l'épisode montre ou confirme que Li Zicheng n'était pas capable de contenir les excès de ses généraux. Or, ces derniers étaient essentiellement des soudards, d'anciens chefs de bande qui s'étaient ralliés à lui, dont les plus puissants le considéraient comme un primus inter pares plutôt que comme un chef suprême, et qui, pour cette raison, avait quelque mal à faire la transition vers un système avec des prétentions impériales, autrement dit, un système institutionnalisé, hiérarchisé et discipliné. En tout cas, le contraste est total avec l'attitude des Mandchous lorsqu'ils sont à leur tour entrés dans Pékin quelques semaines plus tard, et c'est ce qu'on verra à la fin du texte. Les Mandchous ont traité les fonctionnaires de la capitale avec égard et générosité, et leur armée était parfaitement organisée et disciplinée. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient été accueillis à bras ouverts. Pour les bureaucrates de Pékin, c'était la fin d'un long cauchemar. Le récit de Wakeman, donc le laissé sur l'interrègne Shun, auquel je faisais allusion à l'instant, cite plusieurs sources. Mais son fil conducteur, cette partie du récit consacrée à l'audience du 29 avril cite plusieurs sources, mais son fil conducteur est un ouvrage qui s'appelle le Tiashen Chuanxin Lu, qu'on peut traduire par compte-rendu véridique des événements de 1644. Et il s'agit là non pas d'un court témoignage comme les textes dont je suis en train de parler, mais d'un ouvrage assez développé en 10 chapitres qui sont consacrés chacun à un aspect particulier des événements en question, ce qui fait d'ailleurs que l'information est assez dispersée, mais très complète. L'auteur était un lettré du Zhejiang nommé Tianxing, et dans ma feuille, vous verrez que j'ai donné les deux moitiés du caractère Xing, parce que le caractère lui-même n'existe pas dans les fonds d'ordinateur. Donc ce Tianxing du Zhejiang était présent dans la capitale pendant une partie du cours de la courte occupation de Li Zicheng, et il nous dit dans sa préface qu'il a ressenti la nécessité de mettre au point un compte-rendu fiable basé sur le plus de témoignages possibles, et des témoignages qui étaient non seulement le sien propre, mais des témoignages recueillis oralement ou par correspondance de tout ce qui s'était passé. Donc il avait été convaincu de cette nécessité en constatant à quel point les histoires privées qui fleurissaient en Chine du Sud sur ces événements, et il cite une dizaine de titres, étaient bourrées de contradictions. Et le Tiashen Chuanxin Lu, dont son auteur nous dit qu'il y a travaillé pendant 7 ans, est en effet l'une des sources importantes sur Li Zicheng et sur l'épisode Shun, et je la reciterai à l'occasion. Pour sa part, Xu Yingfen, l'auteur du Tiashen Yubian Qiyue, donc du texte dont je parle aujourd'hui, à qui l'audience dont je parlais a dû être racontée très peu de temps après, par son patron ou par d'autres, se contente de résumer l'épisode en quelques lignes. Et il dit qu'on a retenu un peu plus de 70 fonctionnaires pour renomination. D'autres sources disent 92 ou 96. Enfin, en tout cas, moins d'une centaine. Mais il donne quand même des détails intéressants. En particulier, il montre que les solidarités entre gens originaires d'une même région ou d'une même préfecture, continuaient d'opérer même au milieu de tout ce chaos. Parmi les heureux élus, donc parmi les 70 qui ont été finalement réembauchés par les rebelles, parmi les heureux élus, il y avait en effet trois de ces pays. Ils faisaient partie du groupe des natifs, en d'autres termes, ils faisaient partie du groupe des natifs de Nanchang. En revanche, M. Tu, son patron, qui était aussi du même groupe et qui s'était donc présenté, n'avait pas été pris. Et il s'était retrouvé dans la troupe misérable des 3 ou 4 000 candidats rejetés et emmenés à la pointe de l'épée dans les camps des généraux. Mais heureusement, il en avait été extrait au bout de 2 jours, sans avoir subi trop de mal, grâce à l'intervention d'un de ses 3 compatriotes, donc, qui, eux, avaient été embauchés, un certain M. Xiong, que nous retrouverons, et qui avait été nommé au ministère de la fonction publique. Et du coup, Tu avait été non seulement libéré, mais il avait lui aussi reçu un emploi. Et lorsqu'on consulte la liste des fonctionnaires employés par le régime de Li Zicheng, qui est fournie avec de courtes données biographiques et parfois même beaucoup d'anecdotes, qui est fournie par le Tiashen Chuanxinlu, donc cet ouvrage plus massif dont je viens de parler, on comprend que ce monsieur Xiong se soit un peu démené. Non seulement ils étaient tous les deux de Nanchang, mais ils avaient passé le doctorat la même année. Autrement dit, ils étaient camarades de promotion, ce qui créait toujours des liens extrêmement forts. D'un autre côté, Xu Yingfeng cite une série d'autres compatriotes qui, eux, ont été torturés et rançonnés et qui y ont laissé la vie. Même sorti des griffes des tortionnaires de Li Zicheng, ou plutôt de ses généraux, la situation de Tu Biron n'était certainement pas agréable. Et le texte, comme beaucoup d'autres, bien sûr, illustre avec éloquence tout ce qu'ont dû subir ces dignitaires, prêts à tout pour conserver leur statut, fût-ce sous un occupant aussi brutal et aussi méprisant. Comme tous ses collègues, il est obligé de loger dans sa résidence des soldats de l'armée d'occupation. Une quinzaine dans son cas, en majorité des brutes plutôt effrayantes et des pillards arrivés du nord du Shanxi, affublés de sobriquets tels que le tigre qui arpente les montagnes, Zhou Shanhu, ou le dragon debout, le Li Dilong. Ces sobriquets qu'il est désigné typiquement comme des rebelles. Et au passage, je note que l'auteur d'une des histoires classique des rébellions de la fin des Ming, James Parsons, dont je vous ai donné la référence, donne en appendice à son ouvrage une liste d'environ 200 sobriquets portés par les rebelles, mais on n'y trouve pas ces deux-là. Au moins, Xu Yingfeng, à qui M. Tu a confié la garde de sa résidence, n'est-il pas lui-même maltraité? Le chef des soldats n'a même de cesse de le faire festoyer, et si tout ce que renfermait la résidence a été pillé, au moins, il n'y a pas d'homicide, ni de rapt, ni de viol, comme ailleurs en ville. Peut-être parce qu'on est dans la rue du ministère de la Justice et juste à côté des bureaux d'un certain commandant en chef, Liu Dudu, lequel semble n'avoir été autre que le redoutable Liu Zongmin, l'un des compagnons de la première heure de Li Zicheng et aussi l'un des principaux tortionnaires des bureaucrates de Pékin lors de l'épisode auquel j'ai déjà fait allusion. Donc, à proximité des bureaux de ce monsieur et dans la rue du ministère de la Justice, les choses sont plus en ordre. Quant à Tu Biron lui-même, il est allé se réfugier dans la petite maison qu'il avait achetée en catastrophe près de l'hôtel du Tianxi. L'auteur veut aller le voir pour l'aider, mais il renonce parce que les rues sont parcourues de cavaliers rebelles qui écrasent tout sur leur passage. Et ce détail est confirmé dans d'autres témoignages. Et il va se retrouver enfermé avec ses soudards à qui il faut faire la conversation et avec qui il faut boire, sans parler des chansons incompréhensibles qu'ils se mettent à brailler quand ils sont sous. Incompréhensibles puisque, évidemment, des chansons de soldats en dialecte du Shanxi ou du Shanxi ne sont pas compréhensibles pour un natif du Tianxi. Quelques jours plus tard, alors que Li Zicheng a refusé plusieurs fois de répondre aux supplications de ses fonctionnaires pour qu'il monte sur le trône, sont annoncées certaines réformes institutionnelles, au niveau du cérémoniel et surtout au niveau de la nomenclature des organes du gouvernement, avec une inspiration Tang, qui, je dirais, un modèle sur la dynastie des Tang, qui semble avoir été assez important pour Li Zicheng. Et du moment même où cette nouvelle titulature est promulguée, les lettrés de la ville, les shedafu, se précipitent les uns à la suite des autres pour se mettre au courant, si bien que, et ça c'est très chinois et très fin Ming aussi, si bien qu'il faut aussitôt imprimer cette nouvelle constitution, ce nouveau tijie, et que les libraires font des affaires. Mais Bien plus intéressante encore est la question des examens. Car nous voyons là, comme je l'ai déjà mentionné, et comme nous en aurons d'autres illustrations une fois que nous serons retournés au sud, nous voyons là à quel point la préservation de leur statut était vitale pour les lettrés titulaires d'un quelconque grade, et à quel point l'attrait des postes était irrésistible, quel que fût le régime qui les proposait. À partir du moment où Li Zicheng avait sérieusement conçu des ambitions impériales, donc territoriales, ses collaborateurs lettrés, dont le chef était Niu Tingxing, déjà nommé, et qui était lui-même un licencié, un tu jeune, originaire de l'ouest du Shaanxi, qui avait eu des ennuis à la justice, d'où son basculement dans la rébellion, ses collaborateurs lettrés donc avaient été obligés de réfléchir à la façon de mettre en place un cadre d'administrateurs locaux pour remplacer les anciens administrateurs Ming dans les régions nouvellement conquises. Jusque-là, en effet, les territoires qu'il avait envahis, ce changement d'attitude se situe en 1643, en fait. Jusque-là, les territoires qu'il avait envahis n'avaient pas d'administration civile digne de ce nom. C'était essentiellement une occupation militaire. Mais à partir de la conquête du Shaanxi en 1643, donc, et de l'établissement de la capitale d'Eshun à Xi'an, on a fait un effort pour mettre en place des fonctionnaires locaux plus stables et surtout plus civils. Et pour cela, il n'y avait pas d'autre solution que de puiser dans le vivier des lettrés locaux, c'est-à-dire de les recruter en organisant des examens officiels. C'est à Xi'an même que cette procédure a apparemment été inaugurée, et pendant une courte période, Li Zicheng s'est effectivement retrouvé à la tête d'un territoire englobant non seulement le Shaanxi, mais aussi le nord du Henan, et plus tard le Shaanxi, et plus tard encore, après la prise de Pékin, une partie du Beijeli, c'est-à-dire du Hebei, la province métropolitaine, et du Shandong, un peu plus au sud. Un territoire donc où les administrations civiles qui gouvernaient en son nom, c'est-à-dire avec des magistrats nommés par lui, étaient en place et au moins acceptés, avec plus ou moins d'enthousiasme, comme légitimes. Où il y avait, comme disent nos textes, des fonctionnaires fantoches, des weiguan, mais qui étaient en place. Le mot wei est employé dans tous les textes pour désigner tout ce qui touche à Li Zicheng, puisqu'il était un usurpateur. Concernant la tenue d'examen, en tout cas, l'auteur du Yu Bian Tilué suggère que les candidats ne manquaient pas. Au moment de l'invasion du Shaanxi et du Shaanxi, nous dit-il, les licenciés et les étudiants allaient tous se présenter aux examens et recevaient des postes, au moins certains d'entre eux. Et à Pékin, pour y revenir, dès la première décade de l'occupation, une quantité d'étudiants demandèrent à être soumis à un examen. Et celui-ci fut en effet organisé à la préfecture de Shuntian, donc la préfecture qui correspond à la capitale, 2 jours après la promulgation de la nouvelle organisation du gouvernement. Littéralement, un sujet fut proposé pour qu'il disserte dessus, avec promulgation des résultats le jour suivant et envoi des lauréats au ministère de la fonction publique pour y recevoir des nominations. On aimerait évidemment en savoir plus sur cet examen. En fait, il y a quelques détails. Cet examen, d'abord, n'est pas mentionné par Wakeman, mais en revanche, le livre de Parsons, lui, qui se base sur certaines chroniques des rébellions de la fin des Ming, parle de 2 examens. Un pour les licenciés, où il y aurait eu 70 candidats et 50 nommés, et un pour les étudiants, c'est-à-dire ceux qu'on appelle parfois en français des bacheliers. Et il y a une autre courte chronique des mêmes événements qui est intitulée Tia Shen Ti Ben Lu, dont l'auteur est un certain Tian Bangqi, dont je vous ai donné donc les données, qui ne se présente pas explicitement comme un témoignage oculaire, mais plutôt comme une série de faits dont il a entendu parler, qu'il a arrangé par ordre chronologique. Et d'ailleurs, ce Tia Shen Ti Ben Lu fait partie des titres critiqués par l'auteur du Tia Shen Chuan Xin Lu. Tian Bangqi, à qui on doit d'autres écrits d'ailleurs, était un étudiant sous les Ming et il a servi les Ming du Sud comme fonctionnaire jusqu'en 1652, après quoi il est devenu moine. Quoi qu'il en soit, d'après son texte, peu après la fameuse audience du 29 avril et le début des tortures pour tous ceux qui avaient été expédiés dans les casernes, c'est un ou peut-être plusieurs étudiants, alors là il emploie le mot Xiuzai, c'est toujours la même chose, des étudiants confucéens, qui auraient supplié d'être reçus par un certain Song Qijia, qui était un lettré Ming, qui avait un docteur des Ming, 1628, qui s'était rallié à Li Zicheng avant la prise de Pékin et qui était à présent ministre de la fonction publique sous le nouveau régime. Ils veulent le voir, évidemment, pour se faire attribuer des postes. Mais, à en croire le texte, ce texte-là, ils les admonestent en leur disant que le grand rituel d'audience impériale interdit bien sûr qu'on emploie des gens comme eux, qu'ils retournent en vitesse chez eux pour étudier, et qu'une fois que le nouveau fils du ciel aura organisé un examen, alors on choisira parmi eux un certain nombre de candidats pour affectation. Et, en effet, quelques jours plus tard, il y a un examen, et l'auteur donne même les sujets des deux épreuves, qui sont, comme toujours dans les examens chinois, des fragments de citations des classiques, un fragment de 3 caractères et un fragment de 8 caractères, respectivement, que les candidats doivent identifier et puis ensuite développer. Et je vous... avoue tout de suite que je n'ai pas essayé d'identifier la provenance de ces fragments, bien que, avec les moyens informatiques que nous avons maintenant, ça n'est pas très difficile à faire. En tout cas, ce qu'il convient de souligner ici, c'est d'abord le fait que le nouveau régime avait un besoin urgent d'administrateurs de rang subalterne après avoir destitué la grande majorité des fonctionnaires de la capitale. Et on a vu, lors de la fameuse audience du 29 avril, on en avait gardé moins d'une centaine sur plusieurs milliers, et il s'agissait plutôt de gens de rang moyen, de la bureaucratie, les ministères, l'Académie Ranlin, etc. Et cela, même si on en a récupéré un certain nombre par la suite, donc après les avoir proprement torturés et rançonnés. Et d'autre part, le régime avait également besoin de fonctionnaires locaux pour les territoires sur lesquels sa domination s'est étendue après la prise de Pékin. Et je pourrais citer ici un autre témoignage sur la prise de Pékin par Li Zicheng et les quelques semaines de son règne, qui semble avoir échappé aux auteurs qui ont écrit sur ces événements, peut-être parce que ce témoignage est inséré, enfin un peu perdu, au milieu du chapitre 4 du Ti Zhen Ti Wen Lu, cette chronique de la trahison, de la transition Ming-Qing à Suzhou, que j'ai longuement citée l'année dernière et à laquelle je retournerai. Ce texte, donc, qui est inséré dans un chapitre du Ti Zhen Ti Wen Lu, est intitulé « Témoignage oculaire sur la catastrophe nationale ». Guonan Duji. Il est daté de l'été 1644 et son auteur signe du nom de Chen Meng. Et ce texte recouvre aussi bien les autres témoignages, mais il recouvre assez bien les autres témoignages, mais il contient aussi quelques détails inédits. Par exemple, ce texte ne parle pas d'un examen à proprement parler, mais il affirme que quelques 200 personnes ont été nommées à des postes de la capitale par le gouvernement de Li Zicheng, et quelques 400 à des postes de préfet ou de sous-préfet au Zheli, au Shandong et, curieusement, au Sichuan. Sichuan, c'est déjà ancien jour, normalement. Nous rencontrerons, en fait, l'un ou l'autre de ces magistrats fantoches, de ces Wei Zhexian, dans le second texte que je présenterai la semaine prochaine, dont l'auteur a voyagé vers le sud, en quelque sorte en terrain ennemi, jusqu'à Dezhou, au Shandong. En fait, on peut voir dans la longue liste nominale des fonctionnaires nommés par le régime Shun, qui forme le cinquième chapitre du Tianxin Chuan Xilu, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, on peut voir que beaucoup de ces fonctionnaires locaux ont été nommés dans des provinces où ils n'ont certainement pas même essayé de mettre les pieds, et que beaucoup aussi ont reçu des titres sans affectation précise. En tout cas, il est plus que probable, des provinces où ils n'ont même pas essayé d'aller, où ils ne pouvaient pas aller, parce que Li Zicheng ou son régime envisageait déjà une conquête complète de la Chine, et en particulier du nord du Jiangsu et du Sichuan. En tout cas, il est plus que probable que la plupart de ces gens avaient été sélectionnés lors de l'examen dont parle notre texte, ou des examens dont parle Parsons. Voilà pour une chose. La deuxième chose que je voulais souligner, toujours sur ce thème des examens, c'est qu'il n'y avait rien de plus facile que de trouver des candidats parmi cette masse considérable de lettrés de rang subalterne, sans espoir de carrière, et qui ne demandaient qu'à profiter d'une telle opportunité. On vient de voir qu'à Pékin, ils demandent à être examinés. Qui sont exactement ces gens qui demandent à être examinés? Xu Yingfen parle de Zhu Sheng, alors qu'à propos du Shanxi et du Shanxi, il emploie le terme Zetin, mais il s'agit toujours de la même chose, c'est-à-dire de ces étudiants confucéens, comme je les appelle, ou bacheliers, comme on les appelait dans l'ancienne sinologie, parce que la hiérarchie des examens bachelier, licencié, docteur, a été inventée par la sinologie française longtemps avant le système LMD, donc on a encore des bacheliers. Donc ces bacheliers, et le terme le plus courant, bien sûr, c'est Shengyuan. Tous ces gens donc, qui avaient passé des examens locaux dans les préfectures et qui devaient confirmer périodiquement leur statut en passant une sorte d'examen de contrôle administré par le commissaire à l'éducation de leur province. Et qui ne pouvaient seulement concevoir l'espoir d'accéder un jour au statut envié de fonctionnaire qu'après être passé par l'étape suivante, c'est-à-dire l'examen provincial de la licence, organisé tous les 3 ans. Or, celui-là, l'examen de la licence, était terriblement compétitif. Il y avait peut-être 200 ou 300 lauréats par province sur des milliers de candidats. Et les heureux élus n'avaient à leur tour que d'assez faibles chances d'entrer dans l'administration sans réussir d'abord à l'examen du doctorat dispensé à la capitale qui aboutissait à la sélection de 300 ou 400 personnes tous les 3 ans. Il y avait donc beaucoup de lettrés frustrés parmi les licenciés également, et il n'est pas surprenant qu'il soit aussi question d'eux au Shanxi ou au Shanxi dans le texte de Xuanfeng, et également à la capitale dans d'autres sources. Il les appelle des Xiaolian, ce qui est un filial et intègre, ce qui est une appellation un peu littéraire, de la même chose, c'est-à-dire des Tujun, de ce que nous appelons les licenciés. Enfin, troisième remarque, et c'est une chose qu'il faut quand même préciser, c'est que ces examens organisés par le régime de Li Zicheng étaient bien des examens de recrutement. Il ne s'agissait pas, comme dans le système normal des examens impériaux, de décerner aux candidats des grades, donc bachelier, licencié, docteur, lesquels leur donneraient éventuellement droit à occuper des fonctions. Et beaucoup n'en occupaient jamais. Comme on l'oublie parfois, dans la configuration normale, les concours mandarinaux, c'est-à-dire le système des examens chinois, ne servaient pas à recruter des fonctionnaires, mais bien à sélectionner ceux qui étaient qualifiés pour être recrutés. Et le recrutement lui-même passait par des procédures purement bureaucratiques, à la fois sur dossier et à l'ancienneté, si vous voulez, et aussi considérablement au piston et à la corruption. Mais ça, j'en avais longuement parlé à une certaine époque. Donc, dans le cas présent, il s'agit bien d'une procédure exceptionnelle destinée non pas à délivrer des diplômes, mais à faire des recrutements d'urgence en sélectionnant dans le pool préexistant des diplômés par voie d'examen. Et ce qui excite évidemment les étudiants de Pékin, et d'ailleurs au moment où Li Zicheng s'empare du pouvoir, c'est que cette procédure leur permet d'accéder directement à des postes de fonctionnaires, alors qu'en temps normal, c'était totalement exclu. En tout cas, cet examen à Pékin, Xu Yingfen nous dit qu'il a été vivement poussé à y participer par le commandant en chef Liu, dont j'ai déjà parlé, et qui semble l'avoir pris en affection. Ils étaient voisins, on l'a vu, et Liu avait utilisé ses services comme devin. La divination devait être un des talents de Xu Yingfen parce qu'il raconte qu'il discutait de divination, de ce sujet, avec les soldats qui occupaient la résidence de son patron et avec lesquels il était en quelque sorte enfermé. Et on peut supposer que ces soldats l'avaient recommandé à Liu. Or, le commandant en chef Liu était très anxieux de connaître l'avenir du régime. Car les hésitations de Li Zicheng à monter formellement sur le trône, ainsi que l'annonce que Wu Sangui s'apprêtait à ouvrir les hostilités, le rendaient très nerveux. Et Xu Yingfen raconte avec quelques détails comment il avait pratiqué la divination par le livre des mutations, et comment, pour résumer des choses assez compliquées de façon simple, comment il lui avait raconté des histoires pour lui faire peur. Donc, Liu Zongmin, l'encourage avec insistance, enfin l'a pris en affection, et l'encourage avec insistance à se présenter à l'examen organisé pour les étudiants. Mais, comme je l'ai déjà dit, Xu Yingfen réussit à s'en tirer en arguant qu'il n'est pas physiquement apte, il est sourd, et qu'il observe le deuil de sa mère. Quelques jours avant, toujours d'après Le Yu Bianxilue, étaient arrivées à Pékin des informations peu rassurantes sur le général Wu Sangui. Mais là, Xu Yingfen se mélange un peu, puisqu'il affirme que, d'après ses informations, Wu Sangui aurait demandé à la grande armée Tabing, c'est-à-dire l'armée mandchoue, d'entrer en Chine par la passe Shanhaiguan qu'il était supposé défendre afin de venger les Ming. Et moins de 2 semaines plus tard, la confirmation arrive, ils sont entrés en face, en force, Shajou, hein, donc en tuant tout le monde. Et c'est alors, dit-il, que il se mélange un peu, oui, donc, et c'est alors, dit-il, que Li Zicheng se met en branle à la tête d'une armée de 100 000 hommes, dans ce genre de texte, les grandes armées ont toujours 100 000 hommes, pour aller à la rencontre de ses adversaires à l'est. Or, c'est là que je dis que, c'est pour ça que je dis qu'il se mélange un peu, or, l'accord entre Osangwe et les Mandchous, dont j'avais dit un mot lors du premier cours, ne semble avoir été conclu qu'au dernier moment, et Li Zicheng, qui croyait partir en campagne contre Osangwe uniquement, n'en a pris conscience que lorsqu'il était déjà arrivé sur le champ de bataille. Et la suite, comme on dit, appartient à l'histoire. Xu Yingfeng mentionne simplement les nouvelles des défaites qui se succèdent du côté de Li Zicheng, et il donne quelques exemples du moral déclinant des troupes rebelles qui ont été laissées en arrière à Pékin. Il commence à y avoir des déserteurs, etc. Et une autre chose qui commence, c'est le pillage et l'incendie de la capitale en vue de son abandon. À partir d'un certain moment, la rumeur court que Osangwe se dirige vers Pékin avec l'héritier présomptif des Ming, que Li Zicheng avait emmené avec lui comme otage ou comme gage. Et la population de Pékin, qui a eu à souffrir considérablement de l'occupation, est tout d'un coup en ébullition. Donc, toujours les rumeurs. Et c'est là que M. Tu, le patron du narrateur, réapparaît. Il avait été nommé censeur en charge du quartier sud de la ville. C'était une des fonctions des censeurs était d'administrer les quartiers de Pékin, la capitale, et il avait élu domicile à ce moment-là dans les locaux du censorat, pas très loin de son ancienne résidence, toujours gardée par son secrétaire. Quand Xu Yingfeng le met au courant des derniers développements et aussi du fait qu'il est désormais clair que les rebelles vont incessamment abandonner la capitale en emportant tout ce qu'ils peuvent, il ne veut pas y croire. Au gouvernement, il ne semble pas s'en faire, dit-il, et on se prépare à organiser l'intronisation officielle de Li Zicheng. Et cette intronisation officielle aura bien lieu quelques jours plus tard dans la cité interdite, très exactement le 3 juin 1644, et en présence de M. Tu et du reste de la bureaucratie. Mais cette cérémonie supposée inaugurer une ère nouvelle se déroule dans une ambiance quelque peu surréaliste. La ville est à présent parcourue de soldats qui s'attaquent même aux bâtiments officiels de leur propre gouvernement. La veille, par exemple, le ministère de la Justice a été mis à sac et du coup, Tu et ses collègues se sont barricadés dans leur propre bureau du censorat. Et le jour même où ils montent formellement sur le trône, Li Zicheng donne l'ordre de faire les bagages. Les soldats, cantonnés dans la résidence de Tu Biron, il y en avait un peu moins qu'avant parce qu'il y avait eu des pertes pendant l'expédition contre Osangwe. Les soldats donc cantonnés, qui sont avec l'auteur du texte, ont déjà tout empaqueté et chargé leurs mules. Et ils conseillent aimablement à Xu Yingfeng de chercher un autre endroit parce que tout va brûler. En effet, le mobilier a déjà été entassé pour faire un beau brasier et c'est pareil partout où l'armée est cantonnée. Et quand Xu Yingfeng, en larmes, va rapporter cela à son patron, l'autre lui dit de ne pas s'en faire et que leur fuite hors de la ville est déjà organisée. Tellement bureaucrate. Il a un sauf-conduit du ministère de la guerre que lui a obtenu son compatriote, camarade de promotion et protecteur, M. Xiong. Et donc, tout se passera bien. Ils passent tous la nuit dans les locaux du censorat et le lendemain, les troupes de Li Zicheng commencent en effet à quitter la ville. Celles qui sont laissées en arrière mettent le feu partout. Le narrateur nous dit au passage qu'il y perd ses livres et son épée. Et c'est un détail, mais je crois que c'est un détail qui n'est pas indifférent. Déjà au début du texte, quand il partait pour Pékin, donc depuis le Jiangxi, Xu Yingfeng nous disait qu'il prenait la route avec son épée. Or, ce n'est pas un équipement usuel pour un lettré. En général, ils ne nous parlent que de leurs livres ou de leurs objets d'art ou de leurs sitars ou tout ce que vous voudrez. Mais dans la société de la fin des Ming, dont on ne dira jamais à quel point elle était dangereuse, violente et hautement militarisée, même pour un lettré, même pour un étudiant, il valait mieux voyager armé. Quoi qu'il en soit, non seulement M. Tu, mais aussi son ami M. Xiong ont décidé de filer. Ils ont d'autant plus de raisons de ne pas vouloir s'attarder dans la capitale qu'on annonce l'approche de Osangwe, dont les intentions vengeresses vis-à-vis de ceux qui ont rallié Li Zicheng vont de soi. D'ailleurs, il a déjà fait passer l'ordre aux habitants de la ville de porter un turban blanc en signe de deuil pour le défunt empereur Ming, et tout le monde s'est exécuté. Finalement, après une première tentative infructueuse, on apprend qu'il est possible de franchir la muraille par une des portes à l'ouest, et c'est une petite caravane d'une centaine de personnes qui se met en route à l'aube du 5 juin 1644, composée de M. Tu, de M. Xiong et d'un troisième fonctionnaire, de leurs familles et des familles des commis de leurs bureaux respectifs. Et ce détail est assez intéressant car c'était tout le bureau qui s'enfuyait. Et il y avait donc une certaine solidarité entre les fonctionnaires et et les commis alors que leur statut était extrêmement différent. Donc tous à pied, hommes et femmes, sans autre bagage que les objets précieux qu'ils arrivent à porter sur eux, et vêtus de façon aussi crasseuse que possible pour mieux se fondre dans la masse. Et il cite en particulier le cas de la femme d'un des deux fonctionnaires qui était très belle, et donc tout le monde la voyait, et elle n'arrêtait pas de ramasser de la poussière ou de la boue, se la mettre dessus pour que, ne pas se faire remarquer. Je vous passe le détail de leur odyssée, et l'auteur donne beaucoup de détails. À l'intérieur de la ville, les barricades qu'il faut franchir à l'entrée de chaque rue, au milieu d'une foule innombrable de gens qui cherchent eux aussi à fuir vers l'ouest avec femmes et enfants, puisque Wusangui est supposé arriver par l'est. Et une fois sorti, la progression épuisante, retardée par les traînards qui ne veulent plus continuer, les femmes qui n'arrivent pas à marcher, qu'il faut soutenir, etc., etc. Dès le premier jour, ils sont bloqués près d'un petit ermitage à une dizaine de kilomètres de Pékin, où ils passent la nuit, mais ils n'osent pas continuer parce qu'on annonce la présence de féroces bandits un peu plus loin. Et l'information arrive que Wusangui est déjà dans Pékin, personne n'est au courant de l'arrivée des Mandchous à ce moment, et qu'il envoie des détachements de tous les côtés pour capturer les rebelles. Et nos fonctionnaires, qui sont des fonctionnaires rebelles encore, sont évidemment paniqués. Après quoi, ils arrivent à louer quelques carrioles et des paniers pour transporter les femmes, mais plus tard, ils se font voler une partie de leur argent, attaqués par un de ces cavaliers qui semble sillonner la campagne et dont on ne sait pas trop si ce sont des soldats qui terrifient M. Tou et ses collègues ou des bandits, ils sont affamés, etc. etc. Ils n'avancent pas et à la fin, M. Tou craque complètement. Et par une assez jolie symétrie, l'auteur du texte, Xu Yingfeng, qui disait au début du texte qu'il était dépendant de M. Tou comme un enfant, raconte qu'à présent, c'est M. Tou qui s'effondre dans ses bras en pleurant comme un enfant. Pour le réconforter, Xu Yingfeng lui fait valoir que sacrifier sa vie n'aurait désormais plus aucun sens et il lui propose de retourner en ville, c'est-à-dire se suicider, et il lui propose de retourner en ville pour aller aux nouvelles et après, on décidera. C'est donc ce qu'il fait, lui, Xu Yingfeng, et quand il arrive dans Pékin, il peut voir qu'il y a déjà de grandes affiches avec une proclamation du prince régent, c'est-à-dire de Dorgon, dont nous avions vu qu'il avait exercé le pouvoir pendant les premières années du règne de l'empereur Shunzhe, après l'installation des Mandchous à Pékin. De grandes affiches, donc, comme quoi le prince régent offre à tous les fonctionnaires de la cour de laver les souillures précédentes. En d'autres termes, une amnistie systématique à tous ceux qui se sont compromis avec le régime de Li Zicheng. Xu se précipite hors de la ville pour annoncer la nouvelle à son patron, qui l'attendait à l'extérieur, et en outre, un messager arrive avec une lettre d'un autre pays, d'un collègue natif de Nanchang, qui lui demande aussi de revenir. Toute la troupe retourne donc à Pékin, et les deux compères, M. Tou et M. Xiong, se retrouvent enfin à l'abri dans leur alma mater, l'hôtel de Nanchang. L'aurore d'Ali aura duré exactement une semaine. Jusque-là, il n'était question que de Wusangui, dans le texte, toujours désigné par le titre nobiliaire que lui avaient attribué les Ming pour raffermir son dévouement au moment où les choses commençaient à aller vraiment très mal. Ce titre étant « Comte pacificateur de l'Ouest », le Ping Xibo. Et Wusangui était attendu comme le sauveur, ou plutôt comme le vengeur, pour ceux qui avaient à se reprocher quelque chose. Or, à présent, ce sont les Mandchous qui règnent à Pékin. Quand les lettrés de la ville étaient sortis pour accueillir Wusangui, d'ailleurs, à leur grande surprise, c'était Dorgon qui s'était présenté. Wusangui est toujours là, mais désormais, il est au service des Qing, avec pour mission de pourchasser les bandits. Les Qing ont su tout de suite rassurer les fonctionnaires et le petit peuple de la capitale, qui revenaient de loin, comme on l'a vu. Mais cette sécurité avait un prix, et ce prix, c'était la reconnaissance visible et irréversible de leur légitimité. En effet, l'ordre de se raser la tête tombe le lendemain même du retour de Toubirong et de ses compagnons d'infortune, et dans les trois jours, note notre auteur, tous les fonctionnaires de la capitale se sont rasés la tête. La dernière page du Tiachen Yu Bianqi Yue relate ce retour à l'ordre, il donne des indications sur ce retour à l'ordre. L'auteur lui-même a été sollicité par un des serviteurs de son patron pour l'accompagner au sud, autrement dit pour rejoindre la résistance Ming. Mais Xu lui répond qu'il craint la chaleur, on est en plein d'été, en effet, et qu'il ne s'en sent pas capable. Et on peut imaginer son épuisement après toutes ces aventures. Le serviteur en question doit avoir été un vrai patriote, car il part tout seul, déguisé en mendiant. En tout cas, les nouveaux maîtres de Pékin ont su accomplir ce que Li Zicheng s'était montré incapable de faire. Relâcher les contraintes et les prohibitions, permettre à la population d'espérer un nouveau départ. Kengshi, c'est une expression très forte qui a un pedigree historique respectable et qui est classiquement associée à l'inauguration d'une ère dynastique nouvelle qui signifie pour le peuple des lois moins sévères, des impôts moins lourds, etc. etc. Bref, qui signifie pour le peuple la possibilité de se refaire après une période de crise prolongée. Ironiquement, c'est aussi de Gengshi qu'avait parlé dans son discours, ou plutôt dans son édit d'accession au trône à Nankin, pratiquement au même moment, en fait, l'empereur Hongguang, ce personnage pathétique dont j'ai parlé il y a 15 jours. Et du coup, conclut notre auteur, à la cour comme à la campagne, tout le monde s'est soumis avec enthousiasme. C'était comme une pluie bienfaisante après une longue sécheresse, ce qui est une comparaison absolument banale. En chinois. Enthousiasme, c'est difficile à dire, et comme je l'avais noté, il y a encore eu des mouvements de résistance dans les mois et les années suivantes, mais le soulagement était certainement universel. Quant aux fonctionnaires, ils n'ont pas été inquiétés. La petite bande des natifs de Nanchang retrouve tous rapidement leur poste. Xu Yingfeng en cite 5, en plus de son patron Tu Biron. Certes, tous les fonctionnaires chinois ont été obligés de déménager hors de la ville intérieure pour laisser la place aux troupes des huit bannières. Mais d'un autre côté, comme le note aussi Xu Yingfeng, ils ont très rapidement retrouvé leurs habitudes, leur confort et leur marque de distinction. Disons que la belle vie à Pékin, à laquelle les fonctionnaires des Ming comme des Qing étaient tellement passionnément attachés, a pu reprendre presque sans transition, alors que pendant quelques semaines, ils avaient été humiliés, malmenés et rançonnés par une bande de soudards terrifiants. Quant à Xu Yingfeng lui-même, il ajoute un peu curieusement, après avoir mentionné l'obligation faite aux fonctionnaires chinois de déménager au sud de la ville, qu'à partir de ce moment seulement, ses anxiétés ont été apaisées. Veut-il dire que le contact direct avec ces Mandchous, si légitime soit-il, le rendait par trop nerveux ? C'est bien possible. En tout cas, il ne s'est pas attardé à Pékin, malgré les instances de M. Tu, et après y être resté seulement 2 mois au total depuis son arrivée, mais dans des circonstances combien chaotiques, comme on l'a vu, il a préféré accepter l'offre d'un autre de ses compatriotes, nommé magistrat en province, et le suivre dans son poste, probablement comme conseiller. Le jour de son départ, M. Tu l'accompagne jusqu'au faubourg, et ils se séparent, non sans quelque émotion, comme on peut bien le comprendre après toutes ces aventures partagées. Xu Yingfeng est donc le narrateur de cette histoire fort dramatique que je viens de résumer, et on devine une personnalité plutôt intéressante, peut-être même attachante, quelqu'un d'incontestablement courageux, qui a de la ressource dans les moments difficiles, qui a su gérer habilement ses relations avec les rebelles, à qui il a été obligé d'avoir affaire, y compris le commandant en chef Liu Zongmin, qui était un personnage certainement très peu rassurant, et puis quelqu'un qui s'est observé. Mais du point de vue de la problématique qui nous concerne, et que j'ai un peu développée la semaine dernière, le personnage important, c'est plutôt son patron. Tu Biron, et ce sont les collègues de ce dernier. La description des tribulations de Pékin pendant l'intérêt Shun est extrêmement vivante dans le texte et prenante, certes, on est au cœur de l'événement, l'auteur a fréquenté de près les envahisseurs, et son ton est assez différent de celui de quantité de textes parallèles où ce n'est qu'horreur virtueuse et indignation. Il est beaucoup plus objectif. Mais malgré tout, d'un point de vue purement historique, le Yu Bianqiyue n'ajoute rien d'essentiel aux autres chroniques et témoignages qu'on a sur cet épisode. En revanche, ce qu'il laisse entrevoir du parcours des quelques fonctionnaires auxquels il s'intéresse, la petite bande de Nanchang, encore une fois, ce qu'il laisse entrevoir me paraît assez original. Et en même temps, il est probable que c'était très typique. Et après tout, comme je l'ai dit, je m'intéresse aux gens ordinaires. Ce ne sont pas d'horribles collaborateurs, ni des ambitieux cyniques, ni des sycophantes, comme il y en a eu quelques-uns de fameux pendant le court règne de Li Zicheng à Pékin. Ce ne sont pas non plus des modèles d'intégrité passionnément attachés à leurs idéaux, ni des moralistes, loin de là. Ce n'est pas d'eux qu'il faut attendre des paroles élevées ou quelques formules bien frappées sur les devoirs envers le peuple et l'empereur. Il n'y a rien de tel dans le texte. Ils ont bien quelques problèmes de conscience, quelques hésitations, mais il en faudrait plus pour les faire dévier de ce qui est à l'évidence l'axe de leur existence, c'est-à-dire la préservation de leur statut et la continuité de leur carrière. Quand il le faut, ils se donnent des raisons. En fait, les fonctionnaires de Pékin en 1644 ont été confrontés à une configuration très différente de ce qu'on a eu dans le Sud en 1645. Non pas l'alternative entre deux régimes, mais entre trois, très différents et en un très bref laps de temps. Le second de ces régimes, celui de Li Zicheng, a pu se prévaloir pendant quelques jours des apparences de la légitimité. Mais les quelques chances qu'il aurait pu avoir pour transformer l'essai, comme on dirait, ont tout de suite été gâchées pour toutes sortes de raisons. Simplement, enfermée dans les murailles de Pékin, la résistance n'était pas concevable, en dehors du suicide, comme beau geste. Et quand les Mandchous sont arrivés, le contraste était tel qu'à peu près tout le monde s'est jeté dans leurs bras. Comme le reste de la littérature produite pendant la transition Ming-Qing, le Hu Bianqilue confirme que Li Zicheng et la petite équipe de lettrés qui voulait lui donner un destin national, c'est-à-dire dynastique, n'étaient absolument pas préparés pour une telle entreprise. Alors que les Mandchous, eux, étaient admirablement préparés. Ils y travaillaient depuis près de 30 ans, après tout. Et ils avaient réussi, au moins autant que c'était indispensable, à transcender les contraintes de leur propre organisation ethnique. Par contraste, la rébellion dont Li Zicheng était devenu le chef n'a jamais été capable de surmonter ses motivations originelles, c'est-à-dire le brigandage itinérant et la destruction de l'ordre établi. L'alternative était donc très différente dans le Sud, et en même temps, nous y retrouverons un certain nombre de comportements et de dynamiques tout à fait semblables à ce qu'on observe à Pékin et autour de Pékin pendant l'interrègne Shun. Mais avant d'y venir, au Sud, donc, je voudrais analyser, comme je l'avais annoncé, un autre texte à la première personne témoignant sur cet interrègne, mais un texte dont le contenu est assez différent, car il nous emmène hors de Pékin et dans les régions contrôlées de façon éphémère par le régime des Shun. Et c'est donc de cela que je parlerai la prochaine fois. Je vous remercie.